L'avenir pour l'Amérique est le 18 juillet 2020, numéro 6.
L'enseigne.
Et, après 3 jours et demi, l'Esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et il se tint sur leurs pieds, et une grande crainte tomba sur ceux qui les voyaient. Et ils entendirent une grande voix venant du ciel qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans une nuée, et leurs ennemis les virent. Apocalypse 11:11-12.
Après avoir été piétinés dans la rue, Élie et Moïse reçoivent le Consolateur et se tiennent alors debout. Les ossements de la vallée d'Ézéchiel entendent d'abord un bruit, puis connaissent un tremblement, mais ils étaient encore sans souffle.
Ainsi je prophétisais comme il m'avait été ordonné. Et comme je prophétisais, il se fit un bruit, et voici, un tremblement, et les os s'assemblèrent, os à os. Je regardais, et voici, des nerfs et de la chair se formèrent sur eux, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Ézéchiel 37:7-8.
Lorsque les corps ont été reconstitués, ils entendent le message des 4 vents.
Puis il me dit, « Prophétise au vent, prophétise, fils de l'homme, et dis au vent, « Ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des 4 vents, au souffle, et souffle sur ses morts, afin qu'ils vivent. » Je prophétisais comme il me l'avait ordonné, et le souffle entra en eux. Ils vécurent et se tinrent debout sur leurs pieds, une armée très nombreuse. Ézéchiel 37:9-10.
Tous les prophètes annoncent la fin du monde. Ainsi, le passage d'Ézéchiel pose un dilemme pour ceux qui veulent éviter le message des 2 prophètes de l'Apocalypse 11. Bien sûr, pour ceux qui veulent rejeter le message, le mensonge le plus commode qu'ils puissent se raconter, c'est que l'Apocalypse 11 n'est qu'un récit historique représentant la Révolution française, sans aucune application à la fin du monde. Mais si vous acceptez le postulat que même l'Apocalypse 11 annonce la fin du monde, alors vous devez concilier le fait que la puissante armée de la fin du monde, qui présente le message du troisième ange dans un grand cri, est présentée comme étant morte et ressuscitée, avant de se dresser comme l'armée de Dieu.
Alors il me dit, « Fils de l'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est perdue, nous sommes retranchés. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici, ô mon peuple, j'ouvrirai vos tombeaux, je vous ferai remonter de vos tombeaux et je vous ferai entrer dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'aurai ouvert vos tombeaux, ô mon peuple, et que je vous aurai fait remonter de vos tombeaux. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous établirai dans votre propre pays. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et que je l'ai accompli, dit le Seigneur. » Ézéchiel 37:11-14.
Le Christ est monté au ciel dans une nuée, et il revient avec des nuées. Ces nuées représentent des anges. Moïse et Élie montent au ciel dans une nuée qui représente le message du troisième ange volant au milieu du ciel, au moment de la loi du dimanche aux États-Unis. Moïse et Élie montent au ciel au moment de la loi du dimanche, en lien avec un message de l'islam. Esaïe identifie de nombreuses vérités liées à cette histoire, et ce, dans le même passage que Jésus a cité pour identifier son œuvre. Il a pris pour exemple les prophètes Élie et Élisée comme illustration d'un message prophétique non reçu par leurs propres compatriotes, ce qui mit aussitôt en colère ceux de l'église de Nazareth, et ils cherchèrent à le tuer.
« L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » Car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux humbles. Il m'a envoyé pour panser les cœurs brisés, pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison aux enchaînés, pour proclamer l'année de grâce de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour pourvoir à ceux qui sont en deuil de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de cendres, l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des arbres de justice, une plantation de l'Éternel, pour qu'ils soient glorifiés. Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les désolations d'autrefois, et ils répareront les villes dévastées, les désolations de nombreuses générations. Des étrangers se tiendront là et feront paître vos troupeaux, et les fils de l'étranger seront vos laboureurs, vos vignerons. Mais vous serez appelés prêtres de l'Éternel, on vous nommera ministres de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez dans leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez le double. Et sas la lette, elles auront leur confusion. Ils se réjouiront de leur part. C'est pourquoi, dans leur pays, ils posséderont le double. Une joie éternelle sera leur partage. Car moi, l'Éternel, j'aime le droit. Je hais la rapine dans l'Holocauste. je rétribuerai fidèlement leur œuvre et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leur postérité sera connue parmi les nations et leurs rejetons au milieu des peuples. Tous ceux qui les verront les reconnaîtront pour une race que l'Éternel a bénie. Je me réjouirai grandement en l'Éternel, mon âme sera dans l'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme un époux se pare d'un diadème et comme une épouse s'orne de ses bijoux. Car comme la terre fait pousser son germe et comme un jardin fait germer ce qu'on y sème, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer la justice et la louange devant toutes les nations.
Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Et pour l'amour de Jérusalem, je ne me reposerai pas, jusqu'à ce que sa justice resplendisse comme la lumière, et que son salut brûle comme une lampe. Les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche du Seigneur désignera. Tu seras aussi une couronne de gloire dans la main du Seigneur, un diadème royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus abandonné, et l'on ne nommera plus ta terre dévastée, mais on t'appellera Hepziba et ta terre Beula, car le Seigneur prend plaisir en toi, et ta terre sera mariée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ainsi tes fils t'épouseront, et comme le fiancé se réjouit de la fiancée, ainsi ton Dieu se réjouira de toi. Sur tes murailles, ô Jérusalem, j'ai placé des veilleurs, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui rappelez le Seigneur, ne gardez pas le silence et ne lui laissez aucun repos jusqu'à ce qu'il t'établisse et qu'il fasse de Jérusalem un sujet de louange sur la terre. Le Seigneur a juré par sa droite et par le bras de sa force, « Non, je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin pour lequel tu as peiné. Mais ceux qui l'auront recueilli le mangeront et loueront le Seigneur. » Et ceux qui l'auront amassé le boiront dans les parvis de ma sainteté. Passez, passez par les portes, préparez la voie du peuple, frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière pour le peuple. Voici, le Seigneur a proclamé jusqu'aux extrémités de la terre, dites à la fille de Sion, voici, ton salut vient, voici, sa récompense est avec lui, et son ouvrage devant lui. Et on les appellera le peuple saint, les rachetés du Seigneur. Et toi, on t'appellera recherché, ville non abandonnée. Ésaïe 61, Savé-Seb 12:2.
Le Seigneur conclut une alliance éternelle avec les 144 000 qui avaient auparavant été abandonnés, mais qui deviennent ensuite une ville qui n'est pas abandonnée. Ils étaient dévastés et morts dans la rue. Ésaïe les identifie comme les prêtres du Seigneur, les ministres du Seigneur, un peuple saint et les sentinelles sur les murailles de Sion. Cor contraste avec ceux qui sont réjouis de leurs cadavres. Dieu se réjouit alors d'eux, comme l'époux se réjouit de l'épouse. L'épouse est alors prête. De même, dans la promesse faite à Philadelphie, le Seigneur leur donne un nom nouveau et les désigne comme Hepziba et Beula. Hepziba signifie « mon plaisir est en elle » et Beula signifie « se marier ». Le Seigneur épouse ceux qui sont représentés par Élie et Moïse. Le travail qui leur est confié est de préparer la voie au second avènement du Christ, en prêchant la bonne nouvelle du Christ et de sa justice jusqu'à la fin du monde. Ils ont été oints par le Consolateur lors de l'effusion de l'Esprit et seront alors élevés comme un étendard, tandis qu'une grande voix venant du ciel leur dit « montez ici ». Ils seront alors comme une couronne de gloire et un diadème royal dans la main du Seigneur. Zacharie désigne cette même couronne comme un étendard et situe également l'événement au temps de la pluie de l'arrière-saison.
Et l'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils seront comme les pierres d'une couronne, élevées sur sa terre, comme un étendard. Oh, combien grande est sa bonté, et combien grande est sa beauté! Le blé réjouira les jeunes hommes, et le vin nouveau les jeunes filles. Demandez à l'Éternel la pluie, au temps de la pluie de l'arrière-saison. L'Éternel fera des nuages d'orage et vous donnera des averses à chacun de l'herbe dans les champs. Zacharie 9, 16, 10.
Ils seront le troupeau de son peuple, mais le Seigneur a un second troupeau qui sera alors encore à Babylone et qu'il appellera aussi. Leur œuvre consistera à rebâtir les anciens lieux dévastés et les désolations de nombreuses générations. Ils seront ceux qui reviendront et rétabliront les anciens sentiers, qui ont été rejetés et occultés tant au sein de l'adventisme qu'en dehors de l'adventisme. ils reviendront aux vérités fondamentales millérites et les présenteront dans leur pureté à l'adventisme laodicéen. Et ils présenteront aussi un message à ceux qui sont en dehors de l'adventisme au sujet des anciennes vérités liées à la loi de Dieu, en particulier le sabbat. Ce faisant, ils utiliseront les histoires de nombreuses générations pour illustrer l'histoire nouvelle. Leur œuvre se déroula pendant la pluie de l'arrière-saison, lorsque les jugements de Dieu seront dans le pays. Lorsque le Seigneur, de sa main droite, les élèvera comme un étendard, le monde entier, qui auparavant s'était réjoui de voir leurs cadavres gisant dans la rue, verra l'étendard et entendra la trompette d'avertissement des sentinelles.
Vous tous, habitants du monde, et vous qui demeurez sur la terre, voyez, lorsqu'il dresse un étendard sur les montagnes, et quand il sonne de la trompette, écoutez. Ésaïe 18:3.
Au chapitre 11 de l'Apocalypse, lorsque ceux qui s'étaient réjouis de leurs cadavres les voient se relever, une grande crainte tomba sur ceux qui les voyaient.
Alors l'Assyrien tombera par l'épée, non pas d'un homme puissant, et l'épée, non pas d'un homme obscur, le dévorera. Mais il fuira devant l'épée, et ses jeunes hommes seront mis en déroute. Et il se retirera dans sa forteresse par crainte, et ses princes trembleront devant l'étendard, dit le Seigneur, qui a son feu à Sion et sa fournaise à Jérusalem. Ésaïe 31, 8, 9.
Tous les témoignages du prophète se rejoignent dans le livre de l'Apocalypse. L'Assyrien représente le roi du Nord dans Daniel, chapitre 11, versets 40 à 45, qui arrive à sa fin sans que personne ne lui vienne en aide. Quand les 144 000, qui sont les sentinelles de Dieu, sonneront de la trompette, le monde entier entendra et sera saisi de crainte. Ceux qui sont représentés par les deux prophètes seront oints par le Consolateur pour annoncer la bonne nouvelle, à savoir les nouvelles venant de l'Orient et du Nord qui troublent le roi du Nord dans Daniel, chapitre 11, verset 44, et qui marquent le début des persécutions liées à la crise de la loi du dimanche. À ce moment-là, les gentils répondront à l'appel à sortir de Babylone et viendront se joindre aux prêtres du Seigneur, qui sont aussi représentés comme une racine de Jessé, identifiant ainsi la méthodologie biblique qu'ils utiliseront pour présenter le message d'avertissement aux gentils.
En ce jour-là, il y aura une racine de Jessé qui se dressera comme un étendard pour les peuples. Les nations se tourneront vers elle, et son repos sera glorieux. Il arrivera, en ce jour-là, que le Seigneur étendra de nouveau sa main, pour la seconde fois, afin de recouvrer le reste de son peuple, qui sera resté, de la Syrie, et de l'Égypte, et de Patros, et de Cush, et d'Élam, et de Shinar, et de Ramath, et des îles de la mer. Il dressera un étendard pour les nations, rassemblera les bannis d'Israël, et réunira les dispersés de Juda, des quatre coins de la terre. Ésaïe 11, 10, 12.
Le Seigneur a rassemblé son peuple le 11 septembre 2001, par le message qui identifiait l'attaque de l'islam comme l'arrivée du troisième malheur. Le Seigneur rassemble de nouveau son peuple une seconde fois après avoir été mort dans la rue. Lorsqu'il le fait, ceux qui sont rassemblés sont identifiés comme les bannis d'Israël, les dispersés de Juda. Ils ont été jetés dans les rues le 18 Abul 2020, mais ils sont rassemblés une seconde fois pour être l'étendard qui rassemble l'autre troupeau de Dieu qui est encore à Babylone. Le rassemblement de ceux qui sont encore à Babylone commence avec la loi du dimanche aux États-Unis, qui est la seconde des deux voies dans l'Apocalypse 18. Le premier rassemblement a eu lieu le 11 septembre 2001, lorsque l'islam a frappé les États-Unis. En tant qu'étendard qui doit être rassemblé une seconde fois, ils sont représentés par la racine de Jessé, qui est un symbole représentant l'œuvre de l'alpha et de l'oméga, illustrant la fin d'une chose avec le commencement d'une chose. Le premier rassemblement a été marqué par une frappe islamique contre les États-Unis et illustre et identifie une frappe islamique contre les États-Unis comme le second rassemblement. Quand la racine de Jessé se dressera comme un étendard pour les gentils, son repos sera glorieux, car l'étendard ramènera ceux qui sont encore à Babylone sur l'ancien chemin biblique du sabbat du septième jour, marquant ainsi la levée de l'étendard pour les gentils lors de la crise de la loi du dimanche. L'étendard subit d'abord un processus de purification qui a été illustré dans Malachie chapitre 3, dans les deux purifications du temple de Christ, et bien sûr, dans la parabole des 10 vierges à la fin du mouvement millérite. Le processus de purification du commencement est répété à la lettre à la fin, et Ésaïe le représente en lien avec une table unique qui a été mentionnée dans un livre. La rébellion de l'adventisme et la table contrefaite, produite en 1863, afin de rejeter et de remplacer les deux tables mentionnées dans le livre d'Habacuc, chapitre 2.
« Maintenant va, écris cela devant eux, sur une tablette, et consigne-le dans un livre, afin que cela serve pour le temps à venir, pour toujours et à jamais. Que ce peuple est rebelle, des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi du Seigneur, qui disent aux voyants « ne voyez pas » et aux prophètes « ne nous prophétisez pas des choses justes, dites-nous des paroles flatteuses, prophétisez des tromperies. Écartez-vous du chemin, détournez-vous de la voie, faites disparaître de devant nous le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, parce que vous méprisez cette parole et que vous vous fiez à l'oppression et à la perversité, et que vous vous appuyez sur elle, cette iniquité sera pour vous comme une brèche prête à s'écrouler, faisant saillie dans un mur élevé dont la rupture survient soudainement en un instant. Il la brisera comme on brise un vase de potier mis en pièces. Il n'épargnera pas, de sorte qu'on ne trouvera dans ses débris pas même un tesson pour prendre du feu sur le foyer, ni pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël. Dans le retour et le repos, vous serez sauvés. Dans le calme et la confiance sera votre force. Mais vous n'avez pas voulu. Vous avez dit « Non, nous fuirons à cheval, c'est pourquoi vous fuirez. » Et « Nous montrons des coursiers rapides, c'est pourquoi ceux qui vous poursuivent seront rapides. » 1000 fuiront à la menace d'un seul, à la menace de 5, vous fuirez. Jusqu'à ce que vous ne soyez plus que comme un mât au sommet d'une montagne, comme une bannière sur une colline. C'est pourquoi le Seigneur attend pour vous faire grâce, et c'est pourquoi il sera exalté pour avoir compassion de vous. Car le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui l'attendent. Car le peuple demeurera à Sion, à Jérusalem. Tu ne pleureras plus. Il se montrera très gracieux envers toi à la voix de ton cri. Lorsqu'il l'entendra, il te répondra. Ésaïe 30, 8, 19.
En 1967, l'adventisme a entamé le processus de rejet du message prophétique de William Miller tel qu'il était représenté sur les deux tables sacrées d'Habacuc. Jésus illustre la fin par le commencement. Dans ce passage, les rebelles du début de l'adventisme représentent aussi les rebelles de la fin de l'adventisme. Dans les deux cas, la rébellion représente un rejet du message prophétique et de la méthodologie propre à chacune de ces histoires. Lorsqu'il déclare aux voyants « ne voyez pas » et aux prophètes « ne voyez pas des choses justes, dites-nous des choses agréables, prophétisez des mensonges ». Ils se résolvent également à quitter le chemin lorsqu'ils proclament « écartez-vous du chemin, détournez-vous du sentier, faites cesser de devant nous le sang d'Israël ». Le chemin des justes correspond aux sentiers anciens de Jérémie, chapitre 6, versets 16 et 17. Les rebelles se résolvent à ne pas marcher dans les vérités fondamentales, ni à prêter l'oreille au son de la trompette soufflée par les sentinelles qui ont été élevées, représentant le mouvement milleriste et le mouvement de Future for America.
Ainsi parle l'Éternel. Tenez-vous sur les chemins, regardez, et demandez où sont les sentiers anciens. Où est la bonne voie? Marchez-y. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais ils ont dit, nous n'y marcherons pas. J'ai aussi établi sur vous des sentinelles, disant, écoutez le son de la trompette. Mais ils ont dit, nous n'écouterons pas. C'est pourquoi, écoutez, nations, et sachez, ô assemblée, ce qui est au milieu d'eux. Écoute, ô terre, voici, je fais venir le malheur sur ce peuple, le fruit même de leurs pensées, parce qu'ils n'ont pas prêté l'oreille à mes paroles, ni à ma loi. Ils l'ont rejeté. Jérémie 6, 16, 19.
Le refus des rebelles de marcher dans les anciens sentiers est aussi représenté comme leur désir de faire cesser la présence du Saint d'Israël devant eux et représente le rejet du message du cri de minuit qui repose sur l'alpha et l'oméga illustrant la fin de l'adventisme par le commencement.
Ils avaient, au début du chemin, une vive lumière placée derrière eux, qu'un ange m'a dit être le cri de minuit. Cette lumière brillait tout au long du chemin et éclairait leurs pas, afin qu'ils ne trébuchent pas. S'ils gardaient les yeux fixés sur Jésus, qui était juste devant eux, et les conduisaient vers la ville, ils étaient en sécurité. Mais bientôt, certains se lassèrent et dirent que la ville était très éloignée et qu'ils s'attendaient à y être déjà entrés. Alors Jésus les encourageait en levant son bras droit glorieux, et de son bras sortait une lumière qui se déployait au-dessus du groupe adventiste, et ils criaient « Alléluia !» D'autres, imprudemment, renièrent la lumière derrière eux et dirent que ce n'était pas Dieu qui les avait conduits jusque-là. La lumière derrière eux s'éteignit, laissant leurs pas dans des ténèbres totales. Ils trébuchèrent, perdirent de vue le but et Jésus, et tombèrent hors du sentier, dans le monde ténébreux et mauvais d'en bas. Expérience chrétienne et enseignement d'Ellen G. White, 57.
Le processus de purification représenté par le cri de minuit produit deux catégories d'adorateurs. et Ésaïe chapitre 30 présente le manque d'huile des vierges folles comme une incapacité à se procurer de l'eau ou du feu, qui sont tous deux des symboles du Consolateur, lorsqu'Ésaïe écrit « Dans la rupture survient soudainement en un instant, et il la brisera comme on brise le vase du potier, brisé en morceaux. Il n'épargnera point, de sorte qu'on ne trouve dans sa rupture pas même un tesson pour prendre du feu sur le foyer, ni pour puiser de l'eau au puits. Leur jugement vient soudainement, comme le représente le cri de minuit, lorsqu'ils découvrent qu'il est trop tard pour obtenir l'huile. Le feu et l'eau, dans le témoignage d'Ésaïe, sont simplement une autre représentation de l'huile dans la parabole des 10 vierges. L'huile, l'eau et le feu représentent le caractère. Ils représentent le message et aussi la présence du Consolateur. Aucun de ces symboles ne peut être obtenu lorsque le jugement des 10 vierges survient soudainement, en un instant. Il est alors trop tard. La seule sécurité réside dans le « retour », ce qui est la promesse faite à Jérémie lorsqu'il représentait ceux qui furent déçus lors de la première déception. Si le peuple de Dieu revenait à lui, il y reviendrait vers eux. Mais les rebelles refusent et la lumière qui éclairait le chemin s'est éteinte. La lumière au début était le cri de minuit et le chemin en avant était éclairé par le bras droit glorieux du Christ, jusque dans l'éternité. Le Christ était devant ceux qui étaient sur le chemin et la lumière derrière doit être la même lumière, car le Christ illustre la fin du chemin par le début du chemin. Le cri de minuit était et la vérité présente.
On me rappelle souvent la parabole des 10 vierges, dont 5 étaient sages et 5 insensées. Cette parabole s'est accomplie et s'accomplira à la lettre, car elle a une application particulière à ce temps-ci. Et comme le message du troisième ange, elle s'est accomplie et continuera d'être une vérité présente jusqu'à la fin des temps. Review and Herald, 19 août 1390.
Le désir de faire disparaître le saint de devant eux est un rejet non seulement du Christ, mais du Christ en tant que l'alpha et l'oméga. C'est le rejet du message du cri de minuit. Le message du cri de minuit, au début de l'adventisme, était une correction de la prédiction qui ne s'était pas accomplie. Les rebelles qui ont rejeté les anciens sentiers et ont créé un tableau contrefait, séparé des justes, comme cela est représenté dans l'accomplissement, par le mouvement millirite du cri de minuit. Puis 1000 s'enfuirent à la réprimande d'un seul, et le mouvement passa soudain de 50 000 à 50. Ils s'enfuirent à cause de la réprimande qui venait des 5 vierges sages, qui leur dirent qu'elles n'avaient pas d'huile à partager et qu'ils devaient aller acheter leur propre huile. La séparation des vierges folles d'avec les sages laissa les vierges sages comme un phare au sommet d'une montagne et comme un étendard sur une colline. La rébellion des vierges folles, le 22 octobre 1844, illustrait la rébellion de 1863, car le 22 octobre 1844 marquait à su le début des 19 années qui représentent la fin des 7 ans du Lévitique 26. Nous avons davantage à dire sur ce sujet, mais la rébellion de 1844 préfigurait celle de 1863 et marque le moment où le tableau contrefait fut créé. La peur que vivent les vierges folles est celle qui est représentée lorsque les vierges sages sont ramenées à la vie et se tiennent debout. Il est alors trop tard pour se remettre de la déception du 18 juillet 2020, et ce qui se produit ensuite, c'est Scènes en Garle, l'ascension vers le ciel qui a lieu au moment de la loi du dimanche. C'est alors qu'a lieu un grand tremblement de terre.
Et, à cette même heure, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville s'effondra. Et, dans le tremblement de terre, 7 000 personnes furent tuées. Et les survivants furent saisis de frayeur et rendirent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, et voici, le troisième malheur vient bientôt. Apocalypse 11, 13, 14.
Apocalypse 11 indique que, pendant la Révolution française, un 10e de la ville tomba, et que, dans cette histoire, la nation française, une nation composée de 2 cornes prophétiques, représentées comme Sodome et l'Égypte, fut renversée. Les 2 cornes de la France typifient les 2 cornes des États-Unis. Prophétiquement, la France était l'un des 10 royaumes qui représentent la Rome païenne dans Daniel 7, et par conséquent, la 10e partie du royaume, de la ville, tomba. En effet, parmi ces 10 cornes de Daniel 7 qui ont finalement installé la papauté sur le trône de la terre en 538, la France fut le royaume principal qui établit la papauté. En tant que l'une des 10 puissances de Daniel 7, la France typifie le rôle de la bête de la terre à 2 cornes d'Apocalypse 13. Les États-Unis accomplissent à la fin la même œuvre pour la papauté que la France au début. Les États-Unis sont la puissance de premier plan parmi les 10 rois qui représentent les Nations Unies. Et ils tombent au tremblement de terre de la loi du dimanche. Nous traiterons ces versets plus en détail dans le prochain article. L'un des principaux points de cette technologie est qu'il s'agit d'un message qui met le peuple de Dieu debout, car le consolateur qui les met debout représente l'huile, laquelle représente non seulement le Saint-Esprit, mais aussi les messages que Dieu envoie à son peuple. Le message d'Apocalypse 11 qui met Moïse et Élie debout est aussi représenté par la promesse donnée à Jérémie.
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, « Si tu reviens, je te ramènerai, et tu te tiendras devant moi. Et si tu extrais le précieux du vil, tu seras comme ma bouche. Qu'ils reviennent à toi, mais toi, ne reviens pas vers eux. Et je ferai de toi pour ce peuple une muraille d'airain fortifié. Ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas contre toi, car je suis avec toi pour te sauver et pour te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, et je te rachèterai de la main du violent. » Jérémie 15, 19, 21.
Esaïe avait lancé le même appel lorsqu'il déclara « Car ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël. C'est par le retour et le repos que vous serez sauvés. » Esaïe ajouta que le retour était en lien avec le temps d'attente de la parabole, car il écrivit « C'est pourquoi le Seigneur attendra, afin de vous faire grâce, et c'est pourquoi il sera exalté, afin de vous faire miséricorde. Car le Seigneur est un Dieu de justice, heureux tous ceux qui l'attendent. » Le privilège d'être la bouche de Dieu, comme l'a dit Jérémie, est le privilège de parler au nom de Dieu au moment où les États-Unis parlent comme un dragon. Les paroles qui seront alors prononcées par le peuple de Dieu constituent l'avertissement contre la marque de la bête papale. Prendre part à ce mouvement glorieux exige que nous revenions.
« Si tu reviens, ô Israël, dit l'Éternel, reviens à moi. Et si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Et tu jureras, l'Éternel est vivant, dans la vérité, dans le jugement et dans la justice. Et les nations se béniront en lui, et en lui elles se glorifieront. » Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau, et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Ôtez les prépuces de votre cœur, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma fureur ne sorte comme un feu et ne brûle sans que personne puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem, et dites, sonnez de la trompette dans le pays. Criez, rassemblez-vous, et dites, assemblez-vous et allons dans les villes fortifiées. Dressez l'étendard vers Sion. Fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du nord le malheur, une grande destruction. Le lion est sorti de son fourré, le destructeur des nations est en marche. Il est sorti de son lieu pour réduire ton pays en désert, et tes villes seront dévastées, sans habitants. Jérémie 4, 1-7.
Mais l'Esprit du Seigneur vint sur Gédéon, et il sonna de la trompette. Et Abiézer se rassembla à sa suite. Et il envoya des messagers dans tout Manassé, qui se rassembla aussi à sa suite. Et il envoya des messagers à Aès, à Zabulon et à Nephtali, et ils montèrent à leur rencontre. Juges 6, 34, 35.